Vous vous intéressez à la biologie?
Oui, mais je n'approuve pas vos théories.
Le contraire m'eût étonné, nos croyances sont inconciliables.
CO2, mon amour?
Allez, vous me faites rire avec votre science. Demain, vous nous enverrez dans la Lune. Voulez-vous me dire ce que nous y ferons, dans la Lune? Vous croyez qu'on y sera plus heureux qu'à l'ombre de nos oliviers? La dictature des savants, ça sera du joli. Vous, vous couvrez la terre d'usine.
Avec Denis Chessou.
Avouez que la fumée dose en sang empoisonnez moins l'atmosphère que vos radiations atomiques. Ben, il paraît que cela plaît aux hommes d'être empoisonnés. Plus ça pue, et plus ils sont contents.
Sur France Inter.
Ah oui, ça c'est une petite redécouverte de Xavier Pestudia, mon réalisateur, donc Jean Renoir, le déjeuner sur l'air. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir en ce week-end de Pâques en vous souhaitant donc le meilleur, une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, qui s'appelle CO2 mon amour, avec Anne-Laure Cochet, Nicolas Slimani à la technique, et assisté de Camille Blanès et Xavier donc Pestudia, oui, qui réalise l'émission. Et je vais me permettre de rebondir sur l'actualité donc douloureuse, conflictuelle et récurrente entre Israël et la Palestine. Je souhaitais moi vous offrir cette jolie leçon venant du ciel emplumé, venant des oiseaux qui se moquent des frontières humaines comme de leur premier duvet. Eh oui, ils passent les fleuves, les déserts, les mers, les campagnes à travers les mailles des filets, les pièges et les coups de fusil pour regagner ces terres d'amour qui savent les retenir depuis tant de siècles. Alors de quoi s'agit-il dans cette vallée du Jourdain et terre environnante? L'ennemi identifié ne pèse que 100 grammes, se reproduit au rythme de la photocopieuse de votre bureau, se faufile partout, ne possède même pas la queue de la souris verte pour l'attraper, la montrer à ses messieurs, la tremper dans l'huile, etc. J'ai nommé le campagnol et autres rongeurs qui boulottent les récoltes. Alors pour s'en défendre, le paysan sort l'artillerie lourde chimique à coups de tonnes de poison non sélectif. Bref, on fonce dans le tas. Mais à force de consommer les rongeurs empoisonnés, eh bien les chouettes, chats, renards, belettes qui sont les alliés des paysans meurent aussi d'hémorragie. Ou bien vous avez une seconde méthode, plus subtile, calquée sur les équilibres millénaires de la prédation naturelle qui respecte à la fois l'homme, le milieu et la biodiversité. Alors nous y sommes. Entre Palestine, Jordanie, Israël, dans ce corridor pour oiseaux entre l'Asie et l'Afrique. Et oui, dans cette région, il y a autant de biodiversité que de fusils, d'obus, missiles prêts à entrer en action. Dans cette région, où la paix universelle relève du concept, eh bien des ornithologues, comme Yoshi Leshem de l'université de Tel Aviv, des Jordaniens, des Palestiniens, ont su avec clarté utiliser les leçons de la nature pour canaliser l'invasion des rongeurs dans une parfaite concertation sans frontières, ni religieuses, ni politiques. Alors on a placé plus de 4000 nichoirs pour favoriser la reproduction des alliés objectifs de l'agriculture moderne, la chouette effraie. Oui, la chouette effraie qui travaille de nuit et le faucon cresserel qui inlassablement cherche à nourrir ses petits en faisant le Saint-Esprit. On a découvert, grâce au bagage et au GPS posé par Olivier Duriez de l'Université des Sciences de Montpellier, qu'un couple nichant en Jordanie était composé d'un mâle israélien, d'une femelle jordanienne, et puis aussi inversement. Alors, jour après nuit, sans tapage et sans bruit, l'équilibre millénaire se rétablit. Il ne restera plus qu'à l'appliquer dans nos vertes campagnes, pesticidées jusqu'au trognon. Cette vraie recette de tradition et de sagesse sur terre d'hommes efficaces et de bonne volonté. Et puisque nous célébrons à juste titre la mémoire des héros qui remettent l'humain au cœur du terrorisme et des conflits, eh bien saluons aussi donc que d'une pensée discrète ces individus qui à travers le monde s'associent pour protéger cette biodiversité indispensable à la survie de notre planète. Ces passionnés du vivant qui travaillent ensemble et qui font aussi dans les écoles faire des petits. Culture et ornithologie, deux ponts de lumière dans le noir profond et sanglant des pensées obscures. Alors au fait, le programme écologique en question autour de la conservation de la jolie chouette effraie, hein, c'est pas quelque chose qu'il a dit hier d'ailleurs, chassé de nos clochers, notre chouette effraie, qui ingurgite 6000 rongeurs par an, s'appelle « Les chouettes ne connaissent pas de frontières ». Chouette sans frontières. Et surtout, sapristi, par notre chouette magique qui se moque des religions, des haines humaines, ne soyez pas effrayés par les effraies, elles sont nos amies. Alors il y aura des ours pyrénéens qui ne font pas l'unanimité, il y aura des jeunes de Sciences Po et leur association Campagne Zéro Fossile qui rejettent Total comme partenaire. Il y aura une page nature avec Tommy Ungerer, formidable créateur de livres pour enfants. Il y aura un master à Montpellier de gestion de biodiversité et puis aussi une start-up qui aide les jeunes et les moins jeunes à diminuer leur consommation. Bonjour à vous Quentin Oosterland.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors start-up énergique, ça nous intéresse bien. Quel âge avez-vous ?
Alors j'ai 24 ans.
24 ans, qu'est-ce que vous avez fait avant de venir ici ?
J'ai une licence de sociologie et de sciences politiques, ouais. Et un master en entrepreneuriat de l'innovation.
D'accord, et donc vous avez donc créé cette... Rapprochez-vous un peu du micro parce que c'est pas plus mal. Voilà, et alors j'ai envie de partir sur une application que vous avez faite récemment sur la ville de Dombasle-sur-Meurthe. Donc là on est entre Lunéville et Nancy à peu près, donc c'est on ça. Est en Meurthe-et-Moselle, dans cette ville donc assez dynamique de 10 000 habitants. Qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors à Dombasle, en fait, on a créé un challenge finalement entre des écoles, donc des écoles, trois écoles maternelles, trois écoles primaires, pour impliquer, pour sensibiliser professeurs, élèves et parents à la réduction des consommations d'énergie.
Alors c'est concrètement comment ça fonctionne ça ?
Alors tout ça, ça se passe sur une application mobile. Donc on a développé chez Energic, donc ouais. Une startup de Lille. Donc on crée des challenges qu'on diffuse via l'application. On partage les informations de consommation avec des équivalences. Donc par exemple des baignoires pour l'eau ou des journées de famille de 4 personnes pour les consommations de gaz ou d'électricité pour que tout le monde puisse comprendre. Et on va lancer des petits défis chaque semaine sur le gaspillage alimentaire, sur la réduction des consommations d'eau quand on se lave les mains après le déjeuner par exemple.
Oui. Même avant, c'est bien. Enfin, avant, je bougis ça avant, c'est pas, voilà. D'accord, oui. Et donc ça touche aussi bien l'électricité, l'eau, gaspillage alimentaire.
Alors effectivement, on a commencé
tout ce qui peut être réduit. Quoi.
On a commencé par les fluides, donc l'eau, le gaz, l'électricité, et on s'est vite rendu compte que donc dans la philosophie d'Energic, il fallait réduire effectivement tous ces consommables, cet impact ouais. carbone. Donc ça touche effectivement le gaspillage alimentaire, ça touche les déplacements, les déchets. Donc tout ça rentre en jeu effectivement.
Et alors les résultats là, qu'est-ce que ça donne ?
Alors les résultats, donc on a plus de 450 téléchargements de l'application, donc c'est juste génial pour à peu près 1000 élèves et autant de parents, une trentaine de professeurs, donc c'est un franc succès on va dire, avec plus de 7000 idées qui ont été proposées dans l'application pour améliorer au quotidien l'école, pour améliorer au quotidien la ville, par exemple mettre des composteurs au sein de la ville. Donc c'est toutes ces idées là qui vont remonter, une espèce d'intelligence collective. Qui va permettre de faire de Dombasle une ville en transition.
Alors Quentin Oosterland, donc le constat de départ, donc start-up que vous avez créé avec deux autres copains donc en 2016, c'était quoi le constat de départ ?
Alors le constat de départ, c'est que aujourd'hui pour la transition énergétique, on s'occupait beaucoup du bâtiment. Beaucoup de solutions techniques pour le bâtiment et finalement très peu de solutions qui s'intéressent à l'usager dans le bâtiment. Donc ça, c'était le constat de départ. Et l'idée, en fait, c'était d'aller toucher l'usager, d'aller parler à l'usager, de faire en sorte que l'usager comprenne l'énergie.
C'est très important parce que je veux dire, on est une société d'ingénieurs en France. Bon, et c'est vrai que très souvent, je dis pas tout le temps, mais les ingénieurs ont oublié aussi qu'il y avait des usagers. Je dis ça en grossissant le trait parce que c'est pas complètement vrai, mais quand même, c'est pas dans leur culture forcément.
Energic, c'est effectivement la passerelle qui va faire le lien entre l'ingénieur et les 99,9% voilà. des gens qui ne sont pas des ingénieurs énergéticiens et qui ont envie de s'impliquer pour l'environnement.
Bon, et donc c'est duplicable votre affaire, évidemment, là vous avez commencé, mais...
Effectivement, donc on travaille aussi bien avec des entreprises, avec des collectivités, que des écoles maternelles, des universités ouais. Un peu partout en France aujourd'hui, donc effectivement c'est complètement duplicable.
Et ben voilà, donc c'était une nouvelle tout à fait positive, une parole de jeunes et aussi d'entrepreneurs, de jeunes start-up dans cette merveilleuse start-up nation. Les ours, ça vous dit, ils sont pas reliés encore, c'est pas non, c'est
pas encore pas. Effectivement.
Ouais, c'est très bien. Ça va être notre deuxième sujet dans quelques instants après notre première chanson. Merci à vous Quentin Oosterland, donc de la start-up énergique. Les ours, ouais, ils nous attendent.
I want you to stay, don't go away now. Bonjour, c'est Henry Brown, 32 Windsor Gardens. J'aimerais ajouter une garantie à mon contrat d'assurance.
CO2, mon ami.
Voilà, je vous explique. Nous avons un invité pour la nuit, un ours. Et je voudrais également être couvert en cas de dégâts. Oui, un ours. Non, un vrai.
Denis Chessou.
Un peu plus d'un mètre. Un grizzly? Pas vraiment. Remarquez, je ne l'ai pas vu le matin au réveil. Donc, combien ça me coûterait?
Sur France Inter.
Eh bien oui, les nôtres aussi ne sont pas véritablement en peluche. Il s'agit de Canelito et Néré, deux ours dans les vallées d'Aspe et d'Osso, qui se sentent seuls comme ça à l'orée du printemps, car il leur manque quand même des copines. Alors, cette semaine, Nicolas Hulot a décidé de réintroduire deux femelles à l'automne prochain dans la partie ouest de ce massif. Autrement dit, ça relance chez certains, pas tous, certains éleveurs, la bataille de l'ours dans les Pyrénées qui n'en veulent absolument pas. On peut comprendre, on peut les entendre, il n'y a aucun problème. Pourquoi éviter donc la disparition de l'ours dans cette partie occidentale? Parce qu'au total, vous en avez 39, puis vous en avez 37 dans les Pyrénées centrales, et puis vous en avez que deux, donc deux mecs, qui sont là donc tout seuls, tranquillement. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'actualité, France 3 Occitanie?
Des ours, il n'en faut plus!
On entendra ça tout à l'heure et on
n'en veut plus!
Les éleveurs ariégeois n'ont pas été entendus. L'introduction de deux femelles dans les Pyrénées atlantiques, c'est une décision difficile à comprendre pour Rémi Dangean. Porte-parole de l'association pour la sauvegarde du patrimoine d'Ariège-Pyrénées, il a perdu 25 brebis l'été dernier, la faute à l'ours.
Étonné de la stratégie que prend l'État par rapport à ce qui s'est passé cet été chez nous, par rapport à la situation actuelle, par rapport à tous les élus, toutes les organisations professionnelles qui ont interpellé l'État. C'est quand même étonnant ce choix, c'est le choix aujourd'hui qui va, je pense, déclencher la guerre dans les montagnes. Sachant que la situation est déjà tendue et elle était tendue l'été dernier.
Cette situation critique, elle s'est confirmée en septembre 2017. Un commando ariégeois encagoulé et armé avait diffusé cette vidéo dans laquelle il affirmait vouloir mener la chasse à l'ours. Aujourd'hui, les éleveurs sont en colère et les élus locaux dans l'incompréhension.
Le ministre nous dit qu'il viendra au moment de l'introduction. C'est maintenant qu'il faut venir. Je pense que ça va être une véritable pagaille, voire une panique sur les estives des Pyrénées-Atlantiques. Nous serons solidaires des éleveurs des Pyrénées-Atlantiques.
L'Ariège est le département français le plus touché par les attaques d'ours, avec 689 bêtes tuées, indemnisées par l'État en 2017.
Alors l'Office national de la faune sauvage, ne pouvons pas parler aujourd'hui, on va dire, sur ce sujet. J'ai interrogé hier, grâce à nos amis de France Bleu Pau-Béarn, Gérard Cossimon, qui est naturaliste, qui est responsable de l'association de protection, le FIEPS, c'est-à-dire le Fonds d'intervention éco-pastorale Groupe Ours Pyrénées, et qui travaille avec les éleveurs. Donc bonjour à vous Gérard Cossimon, donc le but de cette association.
Bonjour Denis. Mais tout à fait, notre association a été créée, c'est pour ça qu'elle s'appelle Fonds d'intervention éco comme écologique et pastorale, pour essayer de faire vivre ensemble l'ours et le berger, puisque c'est notre slogan. Et il est évident que nous travaillons depuis bientôt 40 ans sur ce sujet, c'est-à-dire essayer de trouver des mesures d'accompagnement qui permettent au pastoralisme de vivre avec un prédateur occasionnel qu'est l'ours brun. L'année dernière, dans notre département, nous n'avons pas eu aucun dommage d'ours, ni l'année d'avant non plus. Et en principe, ce sont des dommages peu importants dans la mesure où les troupeaux sont gardés, puisque ce sont des bergers fromagers et qu'il y a toute une série de mesures d'aide qui, effectivement, les ont encouragés à maintenir le gardiennage et l'utilisation des chiens patous.
Là où ça se gâte, c'est lorsque les troupeaux ne sont pas gardés.
Tout à fait, mais lorsque les troupeaux ne sont pas gardés, comme c'est le cas par exemple dans certains coins de l'Ariège, il est évident que à ce moment-là, la présence d'un prédateur peut causer davantage de dégâts et puis surtout ça peut provoquer des mouvements de panique.
En 2017, il y a eu 689 bêtes qui ont été donc tuées en Ariège. C'était 228 en 2016. Donc là, évidemment, qu'il y a une augmentation avec ce dérochement. Si on regarde les dégâts de l'ours jusqu'en 2016, sur toute la chaîne des Pyrénées, c'est moins de 200 bêtes. Hein.
C'est ça. Disons que si on regarde de 2006 à 2016, en moyenne, c'est moins de 200 bêtes. Dans la mesure où il faut aussi tenir compte du fait que les mesures de protection ont permis d'améliorer la cohabitation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre 2006, où il y avait 15 ours, et 2016, où il y en avait 39, la population d'ours a plus que doublé, mais par contre, les dommages sont restés stables, à l'exception de l'année 2017, avec ce dérochement. Et encore, dans le chiffre que vous avez cité, de 600 et quelques, il y a aussi les dommages qui ont été indemnisés au bénéfice du doute. Étant donné que les dommages qui ont été indemnisés, à coup sûr, certains de l'ours, en 2017, c'est 464, dont 260 sur le dérochement. Donc si vous enlevez ça, vous revenez à peu près à la moyenne sur les 10 dernières années.
On va dire que ce sont des décisions politiques pour que la paix sociale soit à peu près établie. Je rappelle qu'il y a 600 000 ovins dans les Pyrénées. Il y en a 300 000 dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc évidemment qu'on est extrêmement remonté. Je ne sais pas forcément d'ailleurs tous les éleveurs, mais un certain nombre sont remontés. Ils vous disent que de toute façon, la situation a montré que les moyens de protection existants ont très largement atteint leurs limites. Ce n'est pas possible de cohabiter donc avec l'ours.
C'est faux, hein. Les gens qui cohabitent avec l'ours sur le terrain, nous avons des bergers sur le terrain dans les vallées d'Aspe et Rousseau qui cohabitent parfaitement avec l'ours. Il y en a même un certain nombre qui ont adhéré à notre programme de promotion du fromage fermier avec l'empreinte de l'ours, Pédescaus, et qui effectivement, depuis des années et des années, cohabitent avec l'ours sans problème.
Lorsque l'on
Par
vous
contre,
dit qu'un ours...
il y a des gens qui polarisent toutes les difficultés de l'élevage sur le bouc émissaire qu'est l'ours, comme d'ailleurs ça a toujours été. Dans le temps, autrefois, c'était la même chose. Quand un jeune berger avait un acte de négligence, mais on accusait l'ours parce que ça évitait un conflit entre son patron ou son père vis-à-vis du jeune berger. Ça a toujours été le cas. Je vois que pour certains, ça continue. Et plus on s'éloigne de la zone où il y a l'ours, plus les gens sont opposés à l'ours. Parce qu'effectivement, ils ne le connaissent pas, ils le craignent, ils entendent des choses à la télé, ils voient des films américains avec les grizzlies, etc. Alors que les gens qui sont vraiment sur le terrain, en contact avec l'ours, il y en a une bonne moitié qui est tout à fait pour, et bien d'autres qui sont neutres.
Je vous emmène à présent dans un coin superbe des Hautes-Pyrénées, c'est à la limite des Pyrénées-Atlantiques. Nous sommes à Arins, dans le Val d'Azun, ce Val de Lumière. Et là, j'avais rencontré Jean-Pierre Cazot, à Arins-Marsous, donc qui est éleveur, qui est aussi berger, qui est président de l'association départementale du pastoralisme. Alors, j'ai posé la question, en fait, de quoi vous avez peut-être le plus souffert ?
Ce qui nous a fait le plus souffrir et dont j'ai le plus souffert, c'est on discute avec tous les touristes qui viennent nous acheter du fromage et l'ours et ci et ça, et mettre la population, les autochtones, les bergers, les uns contre les autres. Oui, vous avez de l'argent, on vous donne des sous, pourquoi vous n'acceptez pas? On vous paye une brebis, 150 euros, 200 euros, de quoi vous vous plaignez? Vous avez tout ce que vous voulez, on vous paye presque à rien faire, on vous monte tout. Mais non, c'est pas ça. Pour un berger, c'est traumatisant.
Ça, c'est sûr.
De savoir qu'une bête peut être attaquée par... Même pour si elle est indemnisée 10 fois son prix et tout ça, ça remplace jamais, ça remplace pas le souci. On les aime, nos bestioles. On les a pas pour ça. Et nous, notre rôle, c'est de préserver les brebis. On les a pour... D'abord, on les aime et on les a pour notre revenu et notre boulot. Une brebis, même si elle est indemnisée 10 fois, ça remplacera jamais la brebis. Si on en achète une autre, ça sera pas la même. On fait notre métier et c'est pas la peine de se monter les uns contre les autres. C'est pas la peine de, justement, ça crée des conflits et des conflits qui ne font rien avancer.
Jean-Pierre Cazot, donc, dans le Val d'Azun. Alors, cette acceptation, en fait, sociale de l'ours, elle évolue. Elle évolue. Un sondage de l'IFOP fin février, donc, a été établi. Alors, c'est pas été un sondage où on interviewait des bobos parisiens étourdis de sensiblerie. Non, pas du tout. Sur l'ensemble de la France, résultat 84%. Donc des Français sont favorables au maintien d'une population d'ours. Gérard Cosimon.
Mais moi je répondrai sur le sondage avec deux compléments. Le premier, c'est que dans les Pyrénées-Atlantiques, le sondage a montré que même en zone de montagne, 78% des gens étaient favorables à l'ours et que 73% étaient favorables au renforcement de deux femelles. Et ensuite, il y a 5 maires sur les 8 des communes de la zone à ours qui ont signé un document avec nous pour demander au ministre de l'Environnement le renforcement de deux femelles. Ça montre bien que l'acceptation sociale locale a évolué également.
Et puis aussi, quelle est l'importance pour la biodiversité?
L'ours est une espèce, ce qu'on appelle une espèce parapluie, c'est-à-dire qu'en protégeant l'ours, on protège les espèces et les milieux qui font la biodiversité pyrénéenne. C'est-à-dire, dans une vallée, il y a l'utilisation par l'ours depuis le fond de la vallée jusqu'au col de haute montagne. Et en utilisant tout ce territoire, quand on le protège, eh bien, on protège aussi non seulement la faune ordinaire, entre guillemets, mais aussi des espèces emblématiques comme les grands rapaces, comme le grand tétras, comme des oiseaux comme le picado blanc qui vit dans des forêts matures, etc. Et donc l'ours a été finalement pour nous aussi un moyen d'attirer l'attention des pouvoirs publics, des communes, des décideurs sur la nécessité de préserver la biodiversité depuis une quarantaine d'années. Donc ça serait quand même le comble que l'espèce emblématique qui a été effectivement le symbole de ce patrimoine naturel préservé disparaisse aujourd'hui dans les Pyrénées-Occidentales simplement parce qu'en 94 et en 2004, il y a eu des coups de fusil qui ont éliminer les deux dernières femelles. Parce qu'en fait, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est simplement de remplacer les deux femelles qui ont été tuées de la main de l'homme. Pas plus, pas moins.
Gérard Cosimon, quand on parle de l'ours slovène, donc celui qui a été réintroduit déjà, quand on dit qu'il n'a pas le même caractère, qu'il n'a pas forcément le même régime alimentaire, qu'il est plus opportuniste, qu'il est peut-être même plus dangereux, que répondre à cela?
D'abord que c'est entièrement faux. Tous les animaux introduits et leurs descendants ont un comportement qui est un comportement tout à fait de celui d'un ours brun d'Europe, similaire à celui des Pyrénées, des monts Cantabriques, des Abruzzes ou du Trentin. C'est-à-dire que lorsqu'il a la possibilité d'exploiter l'alimentation naturelle, il a le même régime alimentaire. L'Office national de la chasse et la faune sauvage a fait des études là-dessus qui sont publiques, il suffit d'aller sur leur site et on voit effectivement que le régime alimentaire de l'ours d'origine slovène et de souche pyrénéenne est pratiquement le même. Par contre, il est évident que n'importe quel ours brun, que vous l'ameniez d'un côté ou de l'autre, à partir du moment où il a faim, où il n'a pas de ressources alimentaires naturelles suffisantes sur le moment, ben s'il a l'opportunité, en passant, de croquer une brebis, il va pas se gêner. C'est ce qui arrive de toute façon partout. Et n'oubliez pas que les chiens en font autant. L'année dernière, nous avons eu dans notre département une attaque de chiens sur un troupeau qui a fait 47 brebis, alors que le berger qui est en zone à ours n'a jamais eu de dégâts d'ours là où il est. Et malheureusement, il a fallu que sur son exploitation, il ait les chiens de voisins qui lui aient mangé.
Alors, la FNSEA est contre, la Confédération Paysanne est contre l'ours. Ce que l'on constate aussi, c'est que quand même l'Europe nous dit « attention, vous n'êtes pas du tout dans les clous ». Et c'est aussi pour ça que Nicolas Hulot a bougé d'ailleurs.
Il y a eu une mise en demeure de l'Europe qui a été faite fin 2012 et depuis la France a eu toute une série de délais pour pouvoir répondre effectivement. Il est évident que la France a aujourd'hui un atout favorable dans les Pyrénées centrales avec une augmentation démographique. Il reste néanmoins le fait que nous devons attendre voir pour si la consanguinité va jouer ou pas dans les Pyrénées centrales. Espérons qu'avec l'apport d'un mâle en 2016 par la Catalogne et puis le fait aussi que Canelito, l'ours des Pyrénées occidentales, peut trouver effectivement des femelles puisqu'apparemment il va se promener jusque dans les Pyrénées centrales. Bon, ça apportera peut-être la variabilité génétique. Mais là où le bas blesse, c'est que tout simplement toute la partie ouest des Pyrénées se retrouve en danger d'extinction. Et si la France ne fait pas ça, de renforcer, ben tout simplement, elle va être en infraction avec la directive Habitat et ça peut lui amener des suppressions d'aides et des pénalités.
Regarde le bruit de la chenille ! La porte de la grange a été abattue !
Calme-toi, petit.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a fait ça ?
C'est un ours. Regarde ça.
Oh, ça alors ! Mais aucun chien n'a aboyé, pas ! Ou alors, c'est que je dormais !
Non, aucun chien n'a aboyé. Le vent l'a aidé. Il connaît bien son affaire.
Nous sommes au printemps, Gérard Cosimon. Alors, notre ours, que devient-il ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il sort ? On a déjà qui sont sortis.
Alors, cette année, c'est une année qui n'a pas été favorable pour l'ours, parce que l'automne n'a pas eu de faine ni de gland. Donc l'ours est allé dormir relativement tôt, c'est-à-dire qu'à partir de mi-novembre, la plupart des ours sont allés dormir, puisque pour eux, c'est une défense contre le manque de nourriture. Mais par contre, fin janvier, nous avons eu un redout dans les Pyrénées-Atlantiques, et même chose début mars, nous avons trouvé sur le terrain des traces d'ours dans la neige, entre la vallée d'Ossau et la vallée d'Aspe, et là, on l'a retrouvé dans des endroits où il y a pas mal de sangliers. Donc on avait l'ours qui était en train d'essayer de trouver des cadavres de sangliers ou d'en attraper, étant donné que c'est quelque chose qui a déjà été constaté autant par moi que par les agents du parc national des Pyrénées.
C'est-à-dire qu'un sanglier un petit peu affaibli face au démarrage quand même toujours rapide de l'ours.
Voilà.
Le sanglier n'a pas toutes ses chances, quoi, face à l'ours.
Voilà. Là, de toute façon, sa nourriture maintenant, c'est effectivement trouver des charognes ou s'attaquer déjà à l'herbe qui naît le long des torrents et des ruisseaux, étant donné que cette année, il n'a pas de faine et de gland conservés sous la neige, comme ça s'était passé, par exemple, l'hiver 2016-2017.
Qu'est-ce qui vous plaît profondément, Gérard Cosimon, donc, dans cet animal?
Moi, ce qui m'a intéressé dans mon engagement vis-à-vis de la protection de cette espèce, c'est précisément ce double aspect. C'est-à-dire protéger d'un côté une espèce, disons, fabuleuse d'un point de vue écologique, d'adaptation, et dont on se demande comment elle a pu arriver jusqu'à nous dans un pays urbanisé et industrialisé. Et d'un autre côté, l'enjeu de pouvoir effectivement conserver en même temps le pastoralisme de notre région, avec en particulier la production du fromage fermier, qui sont des produits dont aujourd'hui on se rend compte à quel point il est important de les garder d'un point de vue de la santé, d'un point de vue de la gastronomie, etc., et d'un point de vue culturel. Pour nous, l'ours et le berger, c'est la même culture, c'est la même civilisation, c'est les Pyrénées. Donc l'un sans l'autre, on ne conçoit pas qu'ils puissent perdurer l'un sans l'autre, et d'ailleurs je ne voudrais pas l'un sans l'autre.
Grand merci à vous, Gérard Cosimon.
Merci.
Et vous retrouvez donc aussi tout ceci dans nos éditions FIEP FAPAS avec un ouvrage qui s'appelle « L'ours pyrénéen et des monts cantabriques, conservation et carnet de terrain ». Alors il y a aussi autre chose, si Hulot donc a agi, bon il a une sensibilité quand même assez forte par rapport à la biodiversité, c'est incontestable. Mais aussi on n'était pas du tout dans les clous de l'Union Européenne, on s'était fait un peu récupérer par la patrouille parce qu'on n'était pas assez bon donc sur ces histoires d'ours. Voilà, et puis puisqu'il y a de l'agneau là, hein, un peu Pascal, me semble-t-il, bah, essayez de pas le prendre forcément de Nouvelle-Zélande, parce que le vrai problème aussi pour les éleveurs, c'est que l'agneau néo-zélandais est tellement moins cher que ça pose évidemment de sacrés soucis. Donc de l'agneau français, bah ouais, il est pas mal, il est des Pyrénées-Atlantiques, pas de soucis.
Just for me. When you look under the rocks and plants, take a glance at the fancy ants and maybe try a few.
Thanks, Blue.
The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. When you pick a pawpaw or a prickly pear, and you pick a raw paw, well, next time beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big pawpaw. Have I given you a clue?
The bare necessities of life will come to you.
They'll come to you.
They'll come to me?
They'll come to you.
They'll come to me.
They'll come to you.
They'll come to you.
Oh, yeah.
Ah, si ça ne vous donne pas la pêche sur France Inter dans C'est haut de mon amour, mais là je peux pas faire plus, on peut pas faire plus avec Muriel Pérez, le livre de la jungle, cette bande originale, c'est formidable. Alors restez avec nous car nous avons encore trois sujets. Tommy Ungerer dans quelques instants, mais auparavant, ben ça va être, on va y aller du côté de Sciences Po.
Parole de jeunes.
Et oui, parce que j'ai reçu donc un mail de la part de Charlotte Villain et d'une association à Sciences Po qui s'appelle Sciences Po Zéro Fossile. Alors, ça nous a semblé tout à fait intéressant d'en parler. Libérons Sciences Po de l'industrie fossile. Charlotte Villain, bonjour. Vous êtes étudiante en Master 1 en politique environnementale à Sciences Po Paris. Je tiens à rappeler qu'il existe d'excellents Sciences Po aussi un peu partout en province. Et donc, vous êtes membre de l'association Sciences Po Zéro Fossile. Et le 22 mars, il y a eu une signature entre Sciences Po et Total, donateurs et partenaires. Et là, vous avez manifesté « Sortons le carbone de l'éducation ». On a envie d'en savoir plus.
Bonjour Denis. Alors, il y a en ce moment un partenariat stratégique entre Total et Sciences Po qui se manifeste du côté de Total par des donations, des financements de projets et de bourses. Et les contreparties, on ne les connaît pas exactement, mais ce qu'on observe, c'est que ce partenariat profite plus à Total qu'à Sciences Po, parce que Total a un gain d'influence parmi les élèves. En effet, ses salariés donnent cours, des conférences de manière assez régulière. Par exemple, le président de la Fondation Total assure un cours dans le Master Énergie. Donc ça permet à Total d'avoir une image positive parmi les élèves, de faire un peu de recrutement aussi, parce que certains étudiants sont formés vraiment aux besoins de l'entreprise. Et au final, c'est un gain d'influence et d'image pour Total à l'extérieur, parce que Sciences Po, à travers cette association, prête sa légitimité sociale à Total.
Alors, bon, Fondation Total, qui est d'ailleurs aussi, travaille aussi en faveur de la biodiversité. Là, on pourrait dire effectivement beaucoup de choses, mais c'est quand même aussi un petit peu une réalité. Et alors, vous êtes dit, nous, étudiants, ça, on n'en veut pas, parce que du haut de nos 23 ans, on est dans ce 21e siècle, et si on veut un siècle décarboné, bah, ça colle pas.
Exactement. En fait, l'association Campagne Sciences Po Zéro Fossile, donc c'est un petit groupe d'étudiants, on a créé ça en 2016. Et ça fait partie d'une campagne internationale qui vise l'industrie fossile. Donc, si on veut éviter les pires effets du changement climatique, si on ne veut pas une hausse de la température de plus de 2 degrés, il faut que 80% des réserves fossiles restent dans le sol. Donc ça, c'est le pétrole, le charbon, le gaz. Or, les industries fossiles profitent trop de cette extraction pour que la transition énergétique se fasse assez rapidement. Et du coup, donc on a ce mouvement international, par exemple au Royaume-Uni, un tiers des universités ont désinvesti, ont retiré leur soutien moral et financier des industries fossiles. Et nous, à Sciences Po, en France, on veut faire ça, et c'est comme ça qu'est née la campagne.
Charlotte Villain, votre association Campagne Sciences Po Zéro Fossile, que fait-elle ?
Pour lutter contre le partenariat avec l'industrie fossile, on a plusieurs axes d'action. Le premier est notre pétition qui circule, qui rassemble 1300 signatures, donc c'est 10% des effectifs de Sciences Po. Ensuite, on fait des actions de mobilisation, donc comme vous avez très bien décrit au début, ce mariage entre Sciences Po et Total qui mettait en lumière les contradictions entre les deux institutions. Et en fait, cela vise à sensibiliser les étudiants qu'un partenariat existe entre Total et Sciences Po, mais aussi qu'il y a ce mouvement de désinvestissement. Et aussi pour vraiment encourager les étudiants dans d'autres facs en France à participer à cette campagne. Aussi, on a un axe d'investigation, disons, de recherche sur les liens entre Sciences Po et l'industrie fossile. Et enfin, nous sommes en discussion avec l'administration. Il y a une négociation en cours qui vise à évaluer la stratégie de Total. Si cette stratégie s'avère être en conflit avec les objectifs des accords de Paris, il sera remis en question. Et la remise en question du partenariat, ça créerait un précédent pour les universités françaises. Cela permettrait d'envoyer un message fort dans les sphères publiques et politiques que les industries fossiles sont des industries du passé.
Ce que je trouve tout à fait formidable, c'est qu'en fait, pour vous, c'est un véritable travaux pratique dans votre master donc politique environnementale.
Exactement. Hein.
Là, vous y allez. Et alors, que dit la direction ? Qu'est-ce qu'ils font là, par rapport à cette action ?
Nous sommes en négociation avec eux.
En politique environnementale, qu'est-ce que l'on apprend à Sciences Po ?
Alors, à Sciences Po, en politique environnementale, donc ce qui est bien, c'est qu'on apprend à la fois le changement climatique, les causes, les conséquences, et après, on va se concentrer sur les politiques. Comment est-ce qu'on va décarboner notre société, quelles sont les solutions au niveau des bâtiments, des transports, etc. Après, il y a aussi le côté vraiment environnemental, donc on va parler de biodiversité, de recyclage. Donc c'est vraiment, on peut se spécialiser, que ce soit dans les énergies, dans la transition énergétique, dans la biodiversité, dans les ressources. C'est vraiment, on peut spécialiser dans la voie qui nous intéresse.
C'est-à-dire qu'après ce master, vous allez travailler directement, vous allez peut-être poursuivre, enfin vous ne le savez pas, vous, à titre personnel ou...
À titre personnel, je vais poursuivre, oui, je veux travailler pour faire en sorte que nos sociétés, d'abord, puissent ralentir le changement climatique le plus possible, mais aussi s'adapter au changement climatique, ce qui sera une question importante aussi.
Non, c'est très au point, parce que c'est vrai qu'on vaut mieux parler aujourd'hui d'adaptation plutôt que d'atténuation. On sait très bien que les fameux 2 degrés, c'est pas si évident que ça. Donc,
les deux sont très importants. Ça coûtera moins cher d'atténuer que d'adapter.
Alors justement, faisons bien la différence entre atténuer et s'adapter.
Alors, atténuer le changement climatique, c'est de faire en sorte que la hausse de température soit pas trop élevée. Donc, on va essayer de désinvestir des énergies fossiles, décarboner nos sociétés, arrêter d'émettre des gaz à effet de serre. Oui. Alors que adapter, ça va être s'adapter aux impacts, à la montée de la température, aux événements extrêmes liés à la météorologie, etc. Et donc, adapter nos bâtiments, nos villes, nos campagnes, à gérer les effets du changement climatique.
Qu'est-ce qui vous plaît profondément, vous, dans l'environnement? Pourquoi vous êtes parti sur cette voie-là?
On ne peut pas vivre sans planète. Donc, je suis passionnée par d'autres sujets. J'aimerais réduire la pauvreté dans le monde, arrêter les guerres. Mais si on n'a pas de planète pour faire ça, c'est la base de tout pour moi. Donc, au-delà du fait que notre planète soit magnifique et que j'ai envie de la préserver telle qu'elle est, c'est aussi, il faut survivre. Mais surtout, il faut vivre bien et il faut s'assurer que les générations futures puissent vivre comme nous, si ce n'est mieux que nous.
Merci beaucoup, Charlotte Villain. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Vous pouvez nous aider à soutenir notre campagne si nos auditeurs sont intéressés pour les questions climat. La campagne, c'est toutes les institutions, les musées, les banques, les villes. Donc si vous voulez nous poser une question, vous pouvez nous envoyer un message sur notre page Facebook et on vous répondra avec des conseils, des informations.
Charlotte Villain, on va se quitter. Comme vous n'êtes pas très très vieille, hein, vous avez 23 ans, on le rappelle. Il n'y a pas si longtemps, vous lisez des livres pour enfants. Est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelle Tommy Ungerer?
Oui, bien sûr. Ça, c'était les trois brigands, Jean de la Lune.
Oui, le géant de Zeralda. Voilà, et ben, cet homme, il adore la nature et donc on va le retrouver du haut de ses 87 ans.
Le crime des toilettes. De quoi on a parlé dans les journaux? De qui? Allez.
CO2, mon amour.
Allez, de qui on a parlé dans les journaux?
Du dentiste.
Du mécanicien dentiste. Mais en un pipi, on n'en a pas tiré une ligne. Pas une ligne, mon vieux, rien. Un petit kidam, ça ne fait pas de veille. Tu tues une baleine, t'auras les écolos, t'auras Greenpeace, t'auras le commandant Cousteau sur le dos. Mais d'ici ma vente sardine, j'aime autant de dire qu'on te mettra à les mettre en boîte, hein.
Denis Chessou.
Travaillez petit, hein.
Sur France Inter.
Eh oui, on s'en lasse pas, ça, de Poulvord, donc toujours sur France Inter, CO2 mon amour. Qu'est-ce qu'il y aura sur la planète après nous? Pourquoi les enfants sont-ils plus forts avec la technologie que les adultes? Est-ce que c'est bien qu'il y ait des zoos? Qui a créé Dieu? Eh bien, voilà, réponse à 100 questions philosophiques d'enfants. C'est un ouvrage donc de Tommy Ungerer qui s'appelle « Ni oui, ni non ». C'est à l'école des loisirs et donc ça a été en collaboration avec Philosophie Magazine. Et donc Tommy Ungerer, pendant des années, au fur et à mesure, a répondu à ces 100 questions philosophiques. Et moi, j'ai profité de sa venue, parce qu'il habite en Irlande, de sa venue donc parisienne, de cet Alsacien déraciné, pour lui demander quel était son rapport avec la nature, Tommy Ungerer.
C'est très simple. La religion de ma mère, en fin de compte, alors qu'elle était protestante, c'était la nature. J'étais élevé avec la nature. La première chose à enseigner aux enfants, c'est le respect, la beauté de la nature. Et je pense que tout enfant à l'âge de 3 ans, 4 ans, on devrait lui donner une loupe. Pour regarder. Je me rappelle comme j'avais une loupe. On n'avait pas d'argent, mais j'avais la loupe de mon père. Et à l'âge de 5 ans, j'ai observé des fourmis qui ont attaqué un espèce de petit coléoptère et qu'avec la fibre d'un brin d'herbe, on ligotait cette bestiole pour la traîner et pour la manger. La nature est le plus beau spectacle qui nous est offert dans la vie. Et je pense qu'on ne peut pas survivre si on ne respecte pas la nature. Passionné pour la botanique, la minéralogie. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai étudié le lutétien, donc c'est du tertiaire dans le bassin parisien, en vélo. Et il n'y a toujours pas de nos jours vraiment un livre pour identifier les fossiles. Je les emmenais au muséum d'histoire naturelle et j'allais de vitrine en vitrine avec des fossiles, des fois de 2 ou 3 millimètres. Pour les identifier.
Alors, le vélo, ça a été aussi très important pour découvrir la nature. Vous avez fait quasiment un tour de France aussi. Vous avez fait un carnet de paysages, hein. D'ailleurs, ça c'était juste après la guerre. Là, vous faites tout un périple, donc c'est important ça aussi.
Et alors là aussi, sur le niveau botanique, il ne faut pas oublier une chose. C'est au bord des voies de chemin de fer et au bord des routes que l'on trouve les plus grandes variétés de plantes. Parce que ce sont les automobiles et le train.
Alors, il y avait quand même l'Alsace qui était un territoire, un terreau génial, à la fois pour la géologie, à la fois pour les plantes.
Oh, pour la géologie, vous savez, l'Alsace est partiellement ennuyeuse. Et bon, puis, en minéralogie, elle a été épuisée. C'est-à-dire que là où il y avait des minéraux, il y a eu des mines et puis on a tout vidé. Ça. Alors là, on ne retrouve plus grand-chose. Mais quand même, quand je suis parti après avoir loupé mon bachot, je suis parti en Laponie, j'avais quand même dans mon rucksack deux choses, les poèmes de Mallarmé et un marteau. Avant d'avoir traversé les rideaux de fer, j'avais déjà trouvé quelques très belles magnétites. Or, la magnétite, elle peut être de deux sortes. Les magnétites que j'avais ramenées, et c'est la seule fois que je l'ai trouvée en Laponie, c'était des magnétites aimantées. Dans mon rucksack, j'avais non pas seulement un marteau, j'avais même Mallarmé et des minéraux.
Tommy Ungerer, vous êtes en Irlande et lorsque l'on sort de chez vous, pratiquement, il y a l'Atlantique et après, eh ben, il y a 6000 km pour aller sur une autre terre. Là aussi, vous avez un rapport fort avec la nature, puisque si vous êtes...
Moi, quand j'arrive dans un territoire quelconque, d'abord j'en fais la géologie, ensuite je fais un rapport botanique, et puis ensuite les insectes, et puis tout... Alors en Irlande, j'étais gâté.
Ça, il faut connaître.
En Irlande, j'étais gâté. Parce que nous avons là des espèces comme vous avez le genêt en Bretagne, ben, on en a aussi. Mais chez nous, avec les tempêtes, il est devenu rampant. Il s'est mis à ramper devant le vent. Ça.
Ben, il s'est mis à résister, ça devrait vous plaire.
Oui,
ça.
Mais justement, il faut bien des fois incliner la tête pour survivre. Et le genêt, chez nous, s'il veut survivre, il faut qu'ils se mettent à ramper.
Quand on parle d'environnement, comment vous réagissez aujourd'hui? Parce qu'on voit quand même qu'il y a...
Écoutez, une vie sans défi, ce serait une vie vraiment ennuyeuse. Or, chaque environnement, qu'il soit citadin, qu'il nous vienne des saisons ou de la nature, est un défi. Pour moi, le plus grand spectacle de ma vie, ce sont les tempêtes devant la fenêtre. Après les canyons du Colorado. Alors je suis gâté. Et c'est une condition, mais vous savez, si on veut vivre sa vie, il faut quand même parfois chercher ses extrêmes. Pas nécessairement en Orient.
Grand merci Tommy Ungerer. Et puis à très bientôt.
Ouais.
Merci.
On se revoit. Hein.
Tommy Ungerer, mais oui, on va se revoir. Ni oui, ni non, donc c'est aux éditions de l'École des loisirs. Et ce qui est bien, vous avez vu dans cette émission, on est passé de 24 ans avec Tony Ousteland et énergique, avec Charlotte 23, et là 87 ans, et c'est pas fini.
Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Une étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain. Tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, qu'une langue de bois. Aucun chaos, aucun, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai de l'âge, tout sera loin. Donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large.
Le large, c'était Françoise Hardy sur France Inter. 01 56 40 40 35 avant notre dernier sujet.
Bonjour mon amour, ici le CO2 de La Rochelle, à savoir le festival Terre et Lettres. La 9e édition aura lieu les 6, 7 et 8 avril prochains à la médiathèque Michel Crépeau de La Rochelle et recevra des auteurs, écrivains et acteurs locaux du développement durable. Parmi ceux qui sont déjà venus, Pierre Rabhi, Frédéric Danhé, José Bové, Henri Clément, Hervé Kempf, Thomas Porcher, etc. Changer notre rapport au monde sera notre fil rouge cette année, avec notamment Miguel Benassayag, philosophe, Mathilde Ramadier, prix Tournesol 2018 du Festival de la BD d'Angoulême, Marie-Monique Robin pour le Roundup face à ses juges. Nouveauté 2018, des ateliers pour apprendre, par exemple, à transformer des bouts de bois, à repérer et cuisiner les plantes sauvages, et une expo, l'écologie en bande dessinée. Toutes les infos sur notre site www.terre-et-lettres.org. Merci mon amour et à très vite à La Rochelle.
Merci beaucoup. Donc Terre et Lettres, 6, 7 et 8 avril. Les informations sur le site de CO2 Mon Amour, vous en avez l'habitude. Le podcast aussi, hein, là aussi, vous avez l'habitude. Abonnez-vous au podcast, allez-y sur France Inter et CO2 Mon Amour. Merci à Dominique Agnel et Maryse Friboulet. Alors, cinquième et dernier sujet. Mais alors, on a quand même presque une espèce d'unité, parce que ça va être la troisième parole de jeune. Et là, je vais vous présenter un master que vous ne connaissez peut-être pas, à l'Université de Montpellier, qui s'appelle Engineering en écologie et en gestion de biodiversité. On va d'abord écouter donc deux jeunes, Marc-Antoine Colleux et Nicolas Gall, donc qui nous en parlent.
Pour mes motivations, je crois que cette envie à découvrir la nature et à la protéger est venue de parties de pêche, en famille avec mon père, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a appris à observer la nature, à regarder, à s'émerveiller. Et c'est de là qu'est née vraiment cette volonté de la protéger et de continuer les études dans ce milieu-là.
Bon, et donc vous êtes venu ici à Montpellier parce qu'il y avait ce master ?
Tout à fait. En particulier parce qu'il y a l'alternance, une possibilité donc d'alternance en deuxième année. Et donc là, je vais la réaliser dans l'entreprise Simabio, qui est un bureau d'études en recherche appliquée, et où on étudie beaucoup ce qu'on appelle la continuité écologique et donc la libre transition des poissons et des espèces aquatiques d'amont en aval dans les cours d'eau.
Donc on parle des trames bleues et des trames vertes.
Exactement.
Corridor biologique.
C'est une entière partie de la trame bleue.
Concrètement, ça va être quoi ? C'est d'étudier le milieu, d'essayer d'éviter qu'il y ait trop de coupures ?
Ça peut être par exemple de voir l'impact de barrages par des études génétiques des poissons en amont et en aval, afin de voir si les populations sont connectées. C'est d'évaluer la franchissabilité d'ouvrages tels que des barrages, d'aménager des passes à poissons, et donc l'entreprise va donner un avis scientifique sur ce genre de choses.
Alors Nicolas Gall, donc, il représente les étudiants de ce master, originaire de l'Aveyron, donc c'est quand même très vaste. Nous avons le Larzac, nous avons l'Aubrac, nous avons le Ségala, on est de où ?
Alors moi je suis du Causse-Comtal, donc pas très loin de Rodez, un village qui s'appelle Salle la Source exactement.
Alors là ça a été en fait l'immersion tout petit, et après on s'est dit, ah, ce milieu-là j'ai envie de le protéger.
Je suis un gars du Causse, et en fait moi quand j'étais petit je pensais qu'en fait toute la France était un Causse, parce que pour moi c'était l'écosystème normal, et petit à petit je me suis rendu compte qu'en fait pas du tout, et que ce Causse n'est pas si présent que ça du tout à l'échelle du pays. Que voilà, il y a des formations végétales super intéressantes, et que malheureusement, à l'heure actuelle, autour de Rodez, le Causse se fait grignoter, et tout ça, ça participe à mon engagement dans l'écologie.
C'est marrant parce qu'on a une ronde d'accent aujourd'hui, donc avec Tommy Ungerer, avec notre ami des Hautes-Pyrénées, donc la Marc-Antoine Colleux et Nicolas Gall, et puis donc que j'avais tourné lors de ce salon de l'écologie organisé par donc les étudiants de ce master qui a lieu au mois de novembre lors de la première semaine. Et bonjour à vous, vous qui êtes donc l'âme de ce master qu'il avait créé. Bonjour Olivier Thaler.
Bonjour Denis.
Alors Olivier Thaler, on a eu, on va dire, un peu les motivations. Maintenant, on a envie d'en savoir plus sur ce master, donc qui est à Montpellier. Je sais pas si on va saluer le recteur là, qui s'est un peu manifesté de façon un peu bizarre ces derniers temps. Bon, voilà. Alors les pratiques. Qu'est-ce que l'on fait dans ce master, donc qui s'appelle IEGB, ingénierie en écologie et en gestion biodiversité.
Bon, il s'agit de former des futurs ingénieurs de la restauration et de la protection de la nature. Mais la marque de cette formation, c'est vraiment de mettre beaucoup la main à la pâte. Donc l'exemple que vous avez cité là, c'est l'organisation du salon de l'écologie qui est entièrement prise en main par la promotion des deuxièmes années. En première année, les étudiants réalisent un inventaire faune-flore complet sur une des communes qu'il y a autour de Montpellier. Voilà, c'est parmi ces exemples-là, mais on privilégie beaucoup cette pédagogie d'action. Et puis aussi, Marc-Antoine l'a évoqué, une grande partie de la formation, je pense, se passe en stage, en entreprise, et dans le cadre de la deuxième année, via l'apprentissage, il passe quand même 8 mois en entreprise et seulement 4 mois sur les bancs de l'université. Voilà. Donc beaucoup, beaucoup d'immersion.
Alors Olivier Thaler, c'est un master qui est solide, je dirais, autant en biodiversité qu'en diversité sociale. Et ça, vous y tenez dans le recrutement ?
Oui, alors, spécificité de la formation, en deuxième année, on a 45 étudiants. Et ça, c'était pour assurer une biodiversité humaine, une biodiversité d'étudiants, parce que quand vous avez 10 étudiants, c'est un petit peu difficile.
Comme pour les ours.
Voilà, il y a un recrutement d'abord formation qu'on appelle continue, c'est-à-dire des gens qui reviennent sur les bancs de l'école, mais après une première vie à la radio, par exemple. Et voilà. Et donc, qui arrivent à 30 ans, 40 ans, souvent de professions très différentes. Là, cette année, par exemple, j'ai quelqu'un qui sort au départ d'une école de commerce, qui travaillait dans une banque et qui vient faire sa deuxième année d'écologie scientifique. Mmh. Et puis, le deuxième source de mixité, c'est de choisir des étudiants qui ont, comme vous, monsieur, tout à l'heure, donc la double compétence. Ils ont un premier parcours dans un secteur.
De Quentin Oustenant, voilà, 24 ans de notre start-up.
Voilà, oui. Donc on part d'une première orientation. Et puis là, en cinquième année, dans notre master, ils viennent apprendre de l'écologie. Donc là, j'ai des gens qui viennent de cursus, de chimie, d'électronique.
Alors à la sortie, donc là maintenant, donc ça va être quoi? Ça va être du bureau d'études
Essentiellement, le plus gros du recrutement se fait en entreprise privée, bureau d'études, mais aussi collectivité territoriale, association. Le monde associatif reste très très dynamique du point de vue de l'emploi. Et puis quand même, laboratoire aussi, dans la mesure où il s'agit de recherches plus appliquées, concrètes.
D'accord. Ouais. Et il se casse bien,
je sais pas. Se casse bien, et moi j'ai un petit clin d'œil pour l'une d'entre elles. C'est, elle fait écho au début de cette émission, donc Justine Rouleau qui a rejoint l'équipe de Nicolas Hulot au cabinet du ministère,
oui.
Et dont un des premières missions a été de travailler sur le nouveau plan loup.
Mais oui,
l'ours, si j'ai dit l'ours, c'est bien pour
elle
ça.
Elle a du taf, là, comme on dit.
Voilà, oui, voilà. Donc, elle a commencé par quelque chose de très
de
difficile.
Chaud.
Mais ça fait écho au départ de l'émission, quoi.
Eh bien, écoutez, un grand merci.
Il s'agit de pacifier les relations entre l'homme et la nature.
Et la nature, c'est voilà. Ce qu'on essaye aussi.
Alors, les chouettes effraies, ça marche. Et j'espère qu'on fera les mêmes choses avec l'ours et puis le loup.
Le master à Montpellier, ingénierie en écologie et en gestion de la biodiversité, l'IEGB. Là aussi, vous avez les informations sur le site de CO de mon amour. Merci à Olivier Thaler et à ses étudiants. On vous appelle Monsieur Tout est possible. Et ça, c'est formidable. Merci à Anne-Laure Cochet, à Nicolas Slimani, Camille Blanès, Xavier Pessugia, Muriel Pérez pour les chansons. Anne Gouzon qui nourrit les sites. Et la semaine prochaine, ça va être une ronde de printemps. Oui, rituel. Donc, je vais vous emmener un petit peu partout avec nos correspondants nature. Donc, une ronde de printemps. Et puis, je vous signale qu'à 20h ce soir, Babel sur scène, évidemment, sur France Inter et sur Ushuaïa Télé, je recevrai Plantu que j'avais reçu il y a quelques temps. Donc, dans Ushuaïa, le mag.